La Père Jean-Christophe, bonsoir et bienvenue sur Radio Maria France.
Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre accueil et de votre écoute. Et très modestement, comme vous le savez, avec tout mon cœur de prêtre, de pasteur, eh bien, je voudrais lire avec vous ces livres de la Genèse qui sont tellement importants et si mal compris parfois, tellement que parfois on hésite même à les lire ou à les exposer, prétextant de certaines théories soi-disant scientifiques ou idéologiques. Ces livres, ces 11 premiers chapitres du livre de la Genèse, tout au moins, qui nous expliquent pas le comment, mais le pourquoi de l'humanité. Ce pourquoi de l'humanité que Dieu nous révèle à travers cette parole. Et il nous est bon de reprendre sans cesse cette parole qui est le cœur même aussi de la Torah, c'est-à-dire de la loi juive, et qui pour nous est fondamentale puisque c'est l'intention même de Dieu en nous créant. Et on y voit aussi le principe du mal se combattre. Alors, je voudrais, après le premier récit de la création, dans le chapitre 1, le récit en 7 jours, tellement beau, où chaque jour, chaque création, il est dit que Dieu vit que cela a été bon, et dans la création de l'homme et de la femme, Dieu vit que cela a été très bon. Nous avons vu dans le chapitre 2, chapitre 3, c'est le deuxième récit de la création, avec en particulier dans le jardin d'Éden, le paradis, ces deux arbres, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal interdit, et puis surtout et principalement l'arbre de vie pour lequel tout être humain est destiné, symbolisant évidemment la vie éternelle dont parle abondamment notre Seigneur Jésus-Christ. Après le chapitre 3, qui nous révèle l'entrée du mal dans le monde à cause de la tentation évidemment de cet ange de lumière qui est devenu l'ange des ténèbres, c'est-à-dire le diable, le Satan. Eh bien, nous avons vu comment aussi, entre les hommes, le péché est entré dans le monde. Avec cette histoire, chapitre 4, de Caïn et Abel, avec cette fameuse jalousie. La jalousie qui entraîne la haine, qui entraîne le meurtre, qui entraîne la tristesse, qui entraîne l'errance. Et nous avons vu aussi à combien la présence du sang est très importante aussi dans l'Ancien Testament, et nous fait comprendre l'importance du sacrifice eucharistique lorsque Jésus nous dit « Ceci est mon sang, versé pour vous, pour la rémission de tous les péchés. » Ce sang qui est le siège même de la vie, comme le serait pour nous l'âme. Et nous arrivons donc au chapitre 5, un chapitre mal connu ou pas connu du tout, puisqu'il est une succession de généalogies. Et donc il nous paraît peut-être pas très important comme on le voit dans la généalogie du chapitre 1 de Saint Matthieu ou dans le chapitre 4 de l'Évangile selon Saint Luc. Cette succession de noms et de prénoms qui nous paraît superflue et pourtant qui font partie de la Bible, qui font partie de la parole de Dieu, quand bien même nous sommes invités peut-être à ne pas trop nous attarder sur ces mots, eh bien, ont aussi une importance. Alors, si tant est, c'est une pénitence, eh bien, vous allez écouter ce chapitre 5 et peut-être le découvrir, et peut-être en retirer quelque chose de bon pour vous. Chapitre 5 du livre de la Genèse. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes, il les bénit et leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à sa ressemblance et selon son image. Il l'appela du nom de Seth. Après qu'Adam eut engendré Seth, la durée de sa vie fut encore de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Adam vécut en tout 930 ans, puis il mourut. Seth vécut 105 ans, puis il engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, Seth vécut encore 807 ans et engendra des fils et des filles. Seth vécut en tout 912 ans, puis il mourut. Enoch vécut 90 ans, puis il engendra Kenan. Après avoir engendré Kenan, Enoch vécut encore 815 ans et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 905 ans, puis il mourut. Kenan vécut 70 ans, puis il engendra Mahalalel. Après avoir engendré Mahalalel, Kenan vécut encore 840 ans et engendra des fils et des filles. Kenan vécut en tout 910 ans. Et puis il mourut. Mahalalel vécut 65 ans. Puis il engendra Yéred. Après avoir engendré Yéred, Mahalalel vécut encore 830 ans et engendra des fils et des filles. Mahalalel vécut en tout 885 ans, puis il mourut. Yéred vécut 162 ans, puis il engendra Enoch. Après avoir engendré Enoch, Yéred vécut encore 800 ans et engendra des fils et des filles. Yéred vécut en tout 972 ans, puis il mourut. Enoch vécut 65 ans, puis il engendra Mathusalem. Après avoir engendré Mathusalem, Enoch marcha encore avec Dieu, puis pendant 300 ans, et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut car Dieu l'avait enlevé. Mathusalem vécut 187 ans, puis il engendra Lamech. Après avoir engendré Lamech, Mathusalem vécut encore 792 ans. Et engendra des fils et des filles. Mathusalem vécut en tout 969 ans, puis il mourut. Lamech vécut 182 ans, puis il engendra un fils. Il l'appela du nom de Noé, en disant, « Celui-ci nous soulagera de nos labeurs et de la peine qu'impose à nos mains un sol maudit par le Seigneur. » Après avoir engendré Noé, Lamech vécut encore 595 ans et engendra des fils et des filles. Lamech vécut en tout 777 ans, puis il mourut. Noé était âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japheth. Vous l'avez constaté, frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, que ma lecture a été un peu parfois hésitante, surtout à la prononciation de certains chiffres, parce qu'ils sont importants. Alors, quelle est la valeur de ces chiffres? Est-ce qu'ils sont symboliques? Est-ce qu'ils sont réels? Le catéchisme de l'Église catholique nous laisse le soin de l'interpréter. Mais ce qui nous montre le plus ce chapitre, c'est d'abord et avant tout le premier verset et le deuxième verset qui reprend en définitive le premier chapitre du livre de la Genèse. Voici le livre de la descendance d'Adam. Et c'est ainsi que commence la généalogie selon saint Luc. Il commence avec Adam. Adam qui est l'origine de toute l'humanité en définitive. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que Jésus, dans l'évangile selon saint Luc, comme dans les autres évangiles, mais saint Luc le note d'une manière particulière, Jésus est venu sauver toute l'humanité, Israël, mais aussi toute l'humanité, avant le Christ, pendant le Christ et après le Christ. Voilà pourquoi cette mention de la descendance d'Adam, ici dans le chapitre 5, est très importante pour nous chrétiens, puisqu'il est repris, en définitif, dans le Nouveau Testament et dans l'Évangile. Parce que Jésus est venu racheter tout homme qu'il a créé. Et il reprit cette idée très forte, cette vérité fondamentale, quelle que soit l'interprétation de ces histoires, le jour où Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Nous retrouvons cette vérité pas simplement dans le livre de la Genèse, mais dans d'autres livres de l'Ancien Testament. Comme un fil rouge, comme quoi l'être humain porte en lui-même cette image. Certes, si vous prenez une image, elle peut être déformée, elle peut être salie. Et une image est statique. Qu'y a-t-il derrière les aspects, les formes, les couleurs, si elle respecte la réalité ? C'est sûr qu'à cause du péché originel et des conséquences du péché originel, eh bien cette ressemblance, elle n'est pas parfaite, bien évidemment. Et c'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous envoie l'Esprit Saint pour purifier cette image et la rendre encore plus belle à la ressemblance non seulement de Dieu, mais grâce au salut de Jésus-Christ, nous devenons ses enfants. Chapitre 20, chapitre 5, toujours verset 1. Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme et le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa homme et femme. Voilà encore une vérité qu'on retrouve, vous vous rappelez, dans le chapitre 1 du livre de la Genèse. L'égalité de dignité entre l'homme et la femme. Voilà une véritable révolution philosophique. Si socialement parlant, l'égalité de l'homme et de la femme n'est pas acquise, en tous les cas, au point de vue de sa dignité, elle est très claire dans la Bible. Il les bénit et leur donna le nom d'homme, avec un grand H, vous n'avez pas le texte sous les yeux peut-être, avec un grand H, c'est-à-dire l'humanité, le jour où ils furent créés. Ils furent créés. Le verbe créer, barak en hébreu, définit bien l'action de Dieu, qui n'est pas une action humaine. Il donne l'existence à une existence qui est toujours perpétuelle. Si Dieu cesse de créer, si Dieu nous cesse de créer, nous n'existons pas. Voilà pourquoi nous apprenons toujours grâce à la Bible, à la parole de Dieu, et définie par le magistère de l'Église, que Dieu crée tout à partir de rien. Après, il y a cette descendance, Adam, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Yéred, et puis ce personnage un peu curieux qui revient dans le Nouveau Testament, entre autres dans l'Épître aux Hébreux. Si vous reprenez le chapitre 21, le chapitre 5, verset 21, quand on parle de ce personnage, le discours est un peu différent. Je le reprends. Enoch vécut 65 ans, puis il engendra Mathusalem. Nous avons déjà entendu parler de Mathusalem. Après avoir engendré Mathusalem, Enoch marcha encore avec Dieu pendant 300 ans et engendra des fils et des filles. Enoch vécut en tout 365 ans. Là, apparemment, ça ressemble à ses ancêtres, à son père, à son grand-père, à son arrière-grand-père, à ses aïeux. Mais quelque chose de différent, il marchait avec Dieu. Et au verset 24, le fait de marcher vraiment avec Dieu aboutit non pas à la mort, mais à une élévation. Lisons bien, verset 24. Il avait marché avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Ce qui donne aux commentateurs, les pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin, dit qu'il y a déjà des âmes qui ont été enlevées au ciel, peut-être même leur corps, comme Élie, rappelez-vous l'histoire d'Élie, comme Jésus. Alors cela reste mystérieux, cette élévation au ciel, Enoch. Mais l'Épître aux Hébreux et bien d'autres passages de la Bible et des commentateurs mettent un accent particulier sur cette figure d'Enoch. On ne sait pas grand-chose, mais ce que l'on sait, ben on le sait bien. Il avait marché avec Dieu, un peu comme la Vierge Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Elle a toujours marché dans la persévérance, dans l'amitié parfaite avec Dieu. Puis il disparut car Dieu l'avait enlevé. qu'est-ce que cela veut dire? Et nous avons tous entendu parler de Mathusalem, en dehors évidemment, je plaisante bien évidemment, du champagne. Mathusalem vécut 187 ans, puis il engendra Lamech. Après avoir engendré Lamech, Mathusalem vécut encore 782 ans et engendra des fils et des filles. Mathusalem vécut en tout 967 ans, puis il mourut. Voilà. Tout ça pour expliquer ces figures que Dieu veut nous donner pour nous faire réfléchir, pour nous faire méditer à la lumière, toujours, du Christ Jésus. Car que ce soit le Nouveau Testament, que ce soit l'Ancien Testament, nous, chrétiens, chrétiennes, nous sommes invités à méditer, à lire, à écouter la parole de Dieu dans la lumière de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il ne nous dit pas simplement les paroles de Dieu, il est lui-même la parole, ses chairs venues dans ce monde. Alors que ces figures, et particulièrement la figure d'Enoch, nous aident peut-être à mieux connaître la personne de Jésus-Christ. Évidemment, vous l'avez compris, ce chapitre 5 est là aussi pour faire le lien entre Adam et l'histoire qui va nous intéresser maintenant et la fois prochaine, celle de Noé. Au verset 32 du chapitre 5, il est dit en effet, Noé avait été âgé de 500 ans quand il engendra Sem, Cham et Japhet. Après une petite pause musicale, eh bien nous débuterons cette belle histoire de Noé et de l'arche de Noé. Le chapitre 6 du livre de la Genèse. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Ils prirent pour eux des femmes, mais toutes celles qu'ils avaient distinguées. Alors le Seigneur dit, « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare et n'est qu'un être de chair. Sa chair ne durera pas 120 ans. » En ces jours-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils des dieux s'approchèrent des fils des hommes et elles en avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et dit « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'avais créés. » Et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Arrêtons-nous un peu sur ce début du chapitre 6, sans en faire une exégèse approfondie, une histoire approfondie, mais il est bon de voir quelques passages qui nous montre la genèse, justement, le début du mal qui s'instaure dans le monde. Et que Dieu peut, oui, de fait, s'irriter. Il peut se mettre en colère, bien évidemment. Et nous apprenons, nous, chrétiens, que c'est une colère de père, bien évidemment, comme tous les pères peuvent se mettre en colère, non pas contre leurs enfants, mais pour leur révéler leurs péchés, pour qu'ils reviennent sur le chemin du bien, sur le chemin de la vérité et de l'amour, pour les éduquer. Mais il y a bien une colère de Dieu. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, et les fils des dieux s'aperçurent que les filles des hommes étaient belles. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire des peuples et des religions de l'époque, mais c'est vrai que dans l'imaginaire des Hébreux, il y avait beaucoup d'histoires. Bref, déjà, de ce lien avec d'autres peuples qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Vous savez que dans le peuple hébraïque, eh bien, on ne pouvait pas s'unir avec des goïms, c'est-à-dire des non-juifs ou de non-hébraïques. Donc déjà, dans cette histoire, dans ce verset, nous avons déjà en prémisse, ce principe qu'on ne peut pas s'allier avec des peuples païens qui n'étaient pas des peuples de Dieu. Ils prirent pour eux des femmes, mais toutes celles qu'ils avaient distinguées. Alors le Seigneur dit, « Mon souffle n'habitera pas indéfiniment dans l'homme. Celui-ci s'égare, il n'est qu'un être de chair, sa vie ne durera que 120 ans. » Et nous le savons, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'histoires, entre autres avec Salomon, la chute de Salomon, s'allier avec d'autres dieux que le Dieu d'Israël, et puis s'allier avec des peuples dans le rite, les Baals, entre autres, qui implique la colère de Dieu contre le principe, le premier de tous les commandements de Dieu, qui est résumé par l'Église, « Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. » Voilà qui engendre déjà la colère de Dieu. Parce que l'être humain se détourne de la vie que Dieu veut lui donner. Alors, par conséquence, l'homme est amené à une vie plus misérable. On comprend mieux pourquoi dans le chapitre 5, le chapitre précédent, le nombre des années que vivent les hommes et les femmes sont importants par rapport justement à cette punition que Dieu donne, qui n'est pas vraiment une punition, qui est simplement une conséquence du péché de l'homme, du péché de l'humanité qui se replie sur lui et qui fait alliance avec d'autres dieux. Voilà ce que veut aussi nous dire en germe ce début du chapitre 6. En ces jours-là, et même plus tard, il y avait des géants sur la terre. Les fils des dieux s'approchèrent des filles des hommes, et elles avaient des enfants. Ce sont les héros du temps jadis, des hommes de renom. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. Excusez-moi, mais j'ose imaginer la peine, la souffrance de ce Dieu qui nous aime. Cette souffrance, non pas une souffrance de méchanceté ou de haine, parce qu'il ne peut pas y avoir de haine en Dieu, il n'y a que de l'amour. Mais cette souffrance de voir le malheur que peut engendrer le mal dans l'humanité. Voilà, déjà en germe, même si cela n'est pas explicite, bien évidemment, dans l'Ancien Testament, cette souffrance du Père de voir sa créature bien-aimée, qu'il a créée à son image et à sa ressemblance, cette créature dans laquelle il a donné son propre souffle, la roi en hébreu. Cela nous rappelle bien évidemment le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Luc, c'est-à-dire cette histoire de l'enfant prodigue, ce père qui voit s'éloigner son enfant, qui n'a qu'une hâte, c'est d'attendre son retour. Et combien il a de la souffrance, peut-être même plus que son fils qui s'est repenti et qui revient tout penaud revoir son père en lui demandant pardon. Eh bien, c'est peut-être cette image du père qui est en germe implicitement dans ce chapitre. Il voit qu'il y a du mal à longueur de journée. Voilà comment moi, petitement, je peux contempler, méditer la souffrance du cœur de Dieu face à la créature qu'il a créée pour la vie, pour le bien, pour l'amour et la liberté, se détourner de lui, se détourner de la source de tout bien et de tout amour, et utiliser son libre arbitre pour faire le mal et voir toutes les conséquences malheureuses. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il s'irrita en son cœur et lui dit, « Je vais effacer de la surface du sol des hommes que j'avais créés, et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestioles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Est-ce du découragement, du désespoir de Dieu? Non, il n'y a rien de tout cela. Mais ces quelques mots montrent, si Dieu pouvait souffrir, eh bien, toute la peine que Dieu peut avoir. Et cette peine, cette souffrance, elle est matérialisée, incarnée dans ce Dieu qui souffre sur la croix, ce Dieu qui souffre le jeudi saint. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Contemplons donc cette souffrance de Dieu, cette colère de Dieu, cette colère de ce Père qui se transmet en son Fils pour sauver les hommes, non pas pour les condamner. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voilà le signe de l'espérance, de l'espoir de Dieu dans l'humanité. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Après une petite pause musicale, nous reviendrons sur ce Noé et nous commencerons cette belle histoire de Noé. Chapitre 6 du livre de la Genèse. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Ses contemporains, Noé fut un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu. Il engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. J'aime beaucoup ce chapitre 8, ce verset 8 et ce verset 9. Et comment ne pas voir ici déjà la préfiguration de ces grands personnages qui sont relatés dans le début de l'évangile selon saint Matthieu et de saint Luc. Comme par exemple Joseph, tout simplement, qui est appelé le juste, comme Noé qui fut un homme juste, que l'on pense aussi à Zacharie et Élisabeth, où on dit qu'ils marchaient dans les voies du Seigneur. Bref, ce sont ces hommes et ces femmes qui trouvent grâce aux yeux du Seigneur. Mais je ne l'oublie pas non plus. Je sens bien que certains auditeurs et auditrices vont me dire « Mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. » Bien évidemment, la Vierge Marie. La Vierge Marie, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu voici que tu vas concevoir et enfanter un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Voilà, comme beaucoup de personnages de l'Ancien Testament qui préparent déjà l'accomplissement du temps de Dieu. Rappelez-vous, cette phrase est très belle. Les temps furent accomplis. Les temps furent accomplis et Dieu vient parmi nous. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'était un homme juste, parfait. Noé marchait avec Dieu, un peu comme son ancêtre Enoch. Contemplons ces figures que Dieu a choisies. Et quand Dieu choisit quelqu'un, il le prédispose déjà dans sa grâce. Parce que sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas être des justes, nous ne pouvons pas être parfaits, nous ne pouvons pas vraiment marcher avec Dieu. Voilà pourquoi il nous faut prier en ces temps de la Pentecôte l'Esprit Saint pour qu'il renouvelle en nous la grâce sanctifiante qui habite déjà en nous par notre baptême et notre confirmation. Pour que nous devenions des hommes et des femmes justes qui témoignent, comme dira le Christ, au milieu de cette génération mauvaise et pervertie, de la lumière de Dieu et du salut de Dieu. Je relis avec joie ces versets et je continue. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici l'histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste et parfait. Noé marchait avec Dieu. Il engendra trois fils, Sem, Cham et Japhet. Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. La terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car sur la terre, tout être de chair avait une conduite corrompue. Simplement une petite mention au verset 11. Mais la terre s'était corrompue devant la face de Dieu. Pourquoi cette mention devant la face de Dieu? Il m'arrive en tant que confesseur que certains pénitents me disent « On m'a dit, je sais que c'est mal, mais je ne vois pas que c'est mal, moi. Je ne peux pas le regretter. On m'a dit que c'était mal, mais... » Alors je dis, peut-être que toi tu vois pas que c'est mal, mais cela offense le Seigneur. C'est dans la loi de Dieu. Et lorsque nous disons le Notre Père, nous disons pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On ne dit pas dans le Notre Père, pardonne-nous nos péchés, ou le mal que nous avons fait, ou nos fautes. Nous disons pardonne-nous nos offenses. Pourquoi ? Parce que les péchés est une faute morale qui offense le Seigneur, qui offense Dieu. Voilà pourquoi nous demandons pardon. Nous ne demandons pas d'abord pardon à nous-mêmes, parce que nous avons fait le mal, certes aussi. Mais d'abord et avant tout, nous demandons pardon à Dieu parce que nous l'avons offensé. Voilà ce qu'est le péché. Et cette mention de la face de Dieu est très importante parce que très probablement que beaucoup de ces gens ne voyaient probablement pas le mal. Ils voyaient bien quand même qu'il y a quelque chose qui n'était pas bien, parce qu'il y avait beaucoup de violence. Mais souvent, lorsqu'on rentre dans ce cycle du mal et du péché, on ne se rend pas toujours compte de la portée de nos actes. Je continue la lecture de ce chapitre 6 et j'en suis au verset 13. Dieu dit à Noé, « Je l'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l'enduiras de bitume à l'intérieur et à l'extérieur. Tu la feras ainsi 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. Tu feras à l'arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d'elle. Tu mettras l'entrée de l'arche sur le côté et puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième. » Oh, il y aurait beaucoup de choses là encore à dire. Que dit Dieu à Noé ? J'ai décidé, c'est la fin de tout être de chair. Pourquoi ? À cause des hommes, la terre est remplie de violence. Cela nous rappelle certains discours que l'on entend parfois et qui est parfois faussé malgré tout. Notre planète va mal, c'est à cause de l'homme, de la pollution, de la violence. Bref, s'il y a le réchauffement climatique, oui, c'est vrai. À cause, de fait, de certaines activités de l'être humain. Mais pour autant, est-ce que l'homme est une créature maléfique ? Non, bien évidemment. Mais l'homme, par sa liberté, a choisi souvent l'orgueil, l'égoïsme, et n'a pas respecté l'ordre de la création que Dieu a voulu. Voilà pourquoi il y a des conséquences dans notre planète. Mais rappelons-nous aussi ce que dit notre pape François dans son encyclique, Laudato Si. C'est aussi une écologie intégrale, car les conséquences ne sont pas simplement sur la faune et sur la flore, sur la température, sur les eaux, et parfois catastrophiques, bien évidemment, mais sur l'être humain aussi. Non pas simplement parce qu'il y a des degrés en plus et que nous avons très chaud parfois, mais engendre des déséquilibres dans l'humanité qui existent déjà depuis des années, des décennies, voire même des siècles, mais qui prend une proportion extraordinaire par la famine, la violence, les guerres. Nous ne le ressentons pas beaucoup dans notre Europe, mais dans beaucoup de pays, en Afrique et ailleurs, beaucoup meurent de faim, beaucoup subissent ces conséquences d'une manière plus catastrophique encore que les nôtres. Et cette épidémie du Covid-19 devrait nous faire aussi réfléchir un tout petit peu sur cette mondialisation du mal que peut engendrer l'homme, déjà par les conséquences du péché originel, mais aussi par des actes qui ont des liens directs ou indirects sur notre environnement, mais aussi sur la place de l'être humain dans notre cosmos. Ce verset est d'une actualité incroyable. À cause des hommes, la terre est remplie de violences de toutes sortes, bien évidemment. violence sur la nature, violence sur l'être humain, violence sur l'être humain en lui-même, violence sur la flore, violence sur les eaux, violence sur l'atmosphère. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Tout cela pour exprimer, bien évidemment, la colère de Dieu. Parce que Dieu n'a pas voulu le monde comme cela. Dieu n'a pas voulu le mal. Dieu n'a pas voulu ce déséquilibre. Nous reviendrons bien évidemment après sur cette arche avec ses dimensions qui rappelle bien évidemment la barque que va emprunter le Christ, qui rappelle que le Christ au milieu de la tempête est vraiment présent et qui nous invite à la confiance et à la paix. Et cette barque aussi qui est l'Église, qui est ballottée à droite et à gauche par des vents, des tempêtes de toutes sortes, violence spirituelle, intellectuelle, voire même aussi physique. Alors je vous dis à très bientôt, et nous pouvons confier maintenant à ce Dieu qui est Père et qui nous aime, qui a tout créé pour le beau, le bon et le vrai. Nous confions toute cette humanité, mais aussi toute notre planète, mais aussi tout l'univers, en lui disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Amen.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Amen. Merci infiniment, merci beaucoup Père Jean-Christophe. Et on vous retrouve donc sur l'antenne de Radio Maria France le mois prochain.
Avec plaisir.
Merci, merci beaucoup. Au revoir.